Il en annonce une chaude aujourd'hui, les amis. C'est pas fini l'été, ça continue, puis on en profite actuellement sur Québec. C'est 21. Avec le facteur humidex, ça pourrait être une température ressentie de 26 aujourd'hui. On nous annonce un maximum de 27 avec un maximum d'humidex de 34. Ce soir, ciel dégagé, donc ça se continue. Pas de probabilité d'averse de prévu pour aujourd'hui. Minimum de 13 degrés. Demain, mardi, une belle journée ensoleillée avec un maximum de 27. Mercredi, des nuages, maximum de 28. Jeudi, des nuages, maximum de 26. Et vendredi, le retour du soleil avec un maximum de 21. Donc, la saison de moto qui se continue, Audrey.
Oui, bien, mon Dieu, c'est trippant. Écoute, le chum, on a fait la fin de semaine. Sur la 20 direction ouest en ce moment, il y a quelques problèmes de trafic là, à la hauteur de Taniata, surtout. Si vous êtes sur la 73 direction nord, à l'approche des ponts, là, à la hauteur de la 20, il y a quelques ralentissements aussi. C'est pas mal tout pour l'instant. Évidemment, s'il y a quoi que ce soit, ça passe par le 88-971-1021. Un texto.
Merci beaucoup. Les Quickie News, Max!
Seigneur, hein?
Tu regardes ça, toi?
Et qu'on te fait créer des affaires.
Hein? Tu regardes ça sur Internet.
Ben oui.
Quand c'est écrit « Comment devenir la femme la plus attirante de la pièce? »
De la pièce.
Toi, si tu dis « Bon, ben, je prends un 30 minutes, c'est let's go, c'est de la lecture. »
Mais c'est une question d'attitude, il paraît. Fait que lève ta tête, tu sais, tes épaules droites. Ouais, c'est ça. Non, j'écoute ça par curiosité. Okay.
Puis ton étude là, sur les parfums qui seraient supposés d'être aphrodisiaques.
J'avais déjà essayé ça maintenant, ces affaires-là de phéromones et compagnie.
T'en as mis dans ton cou?
Oui, ben j'en ai mis partout. En arrière de mes oreilles, dans mon cou, sur mes poignets, tout ce qu'ils disent qu'il faut que tu fasses. Là, entre la craque, toute l'affaire, là, toute la grosse affaire.
Entre la craque.
J'ai tout fait, Yann. Mais non, ça n'a pas donné grand-chose. Fait que soit que je pogne vraiment pas.
Ouais.
Soit que ça ne fonctionne pas particulièrement.
Normand Voyer s'était penché là-dessus. Normand Voyer, c'est un chimiste. Puis lui, il parlait plus de l'effet placebo.
Peu mais la confiance!
Oui, exact. Si tu y crois, tu as 10 % des chances que ça fonctionne. Puis si tu es dans ce 10 %-là, ben tu vas avoir un peu plus de confiance en toi.
Ouais.
C'est ma journée,
ouais.
Je suis belle,
ben oui. Mais tu sais, t'as déjà entendu hein, les femmes qui mettent des talons hauts quand ils ont besoin d'un pep de confiance. Moi, une journée où je me sens comme de la marre, là, généralement, je vais mettre des talons, puis je vais me pimper, puis je vais m'habiller plus belle, puis je vais me maquiller.
Ça,
parce
ça
que là,
aille.
J'ai comme besoin... Tu sais, là, il faut que comme je sorte de chez nous, puis je fais comme, t'es pas pire, pinchot, tout va bien. Tu sais, faut que tu te donnes un peu de confiance, oui.
Tu te parles à toi-même. T'es pas pire, pinchot, tout va bien.
Ben oui, la manière,
faut que tu fasses un talk. Tu t'appelles toi-même par ton nom de famille.
Non, je fais pas ça. La fille est vraiment imbue d'elle-même. Non, mais tu te fais un pep talk, là. C'est la mode en ce moment que les petits-enfants, là, ils leur apprennent à se dire dans le miroir, t'es beau, t'es bon, t'es belle, t'es capable. Moi, ma mère, elle me faisait faire ça.
OK.
Ta mère, t'as jamais personne qui te fait faire ça?
Non, non.
T'es bon,
ça doit
t'es
expliquer
beau,
ma personnalité. Non.
C'est peut-être ton scepticisme. Tout ça part de là. OK, OK.
Ouais,
on apprend à se connaître.
Désaccélère. Ça va pas, mon affaire. Hey, on partage une passion commune. On en partage plusieurs, mais une, c'est les animaux.
Oui.
On a deux Golden Retrievers.
On a deux cons à la maison.
Le tien semble plus intelligent que le mien.
Oui, il est très intelligent, le mien.
Le mien est vraiment patate. C'est vraiment un chien hyper colleux. Mais dès que tu commandes quelque chose, si lui... Il est 11h17, ça ne tente pas, ça ne tente vraiment pas. Là.
Oui, puis tu habites chez eux, hein, c'est ça?
Et oui, c'est ça.
Il fait c'est son environnement.
Il fait de la protection. On en parlera avec notre comportementaliste canin humain. Son nom, c'est Sophie Véronneau. Salut, Sophie.
Allô?
Merci d'être avec nous.
Hey, ça me fait tellement plaisir.
D'où vient ta passion pour les animaux? Puis comment tu en es venue à devenir comportementaliste?
Bien, moi, j'ai toujours trippé sur les animaux depuis que je suis jeune. J'ai eu des oiseaux, des lapins, des chats, tout ce que tu peux t'imaginer.
Un zoo.
Et mon père aussi, très passionné des animaux. Puis quand je suis déménagée de chez moi, j'ai eu mon premier chien qui s'appelle Enzo, qui a maintenant 11 ans, qui est un être extraordinaire. Et comment ça a parti, c'est quand j'ai eu mon deuxième chien, qui est un husky malamute que j'ai eu à 7 mois. Puis il était épouvantable. C'était l'enfer. C'était comme... Il était pas gérable. Il était jamais capable de se relaxer. C'était comme vraiment intense. Puis je me suis cassée la cheville grâce à lui en 2019.
Grâce à lui.
Et ça a changé ma vie, en fait.
Okay.
Fait que là, je suis devenue...
Ah, pour ça, grâce.
Exactement.
Okay.
Fait que j'ai été en arrêt de travail pendant un mois et demi. Moi, j'ai travaillé 15 ans pour la compagnie familiale à Laval. Et dans le fond, quand j'ai eu un mois et demi d'arrêt, j'ai comme fait « Hey, j'aime quoi, moi, dans la vie? » Tu sais, je me suis comme remise en question parce que j'avais le temps de m'ennuyer. Et j'étais comme « Hey, je pense que j'aime les chiens. » Tu sais, j'ai deux huskies. Mon moment le fun de la journée, c'est quand je suis en forêt avec eux. Puis, tu sais, fait que là, j'ai décidé de changer de métier grâce à ce mois et demi-là d'arrêt. Et j'ai décidé de partir une pension pour chien.
OK.
Fait que là, j'ai pas parti de même, là. Je vais aller faire une formation pour savoir comment gérer les chiens et tout ça. Puis quand j'ai terminé, c'était une formation pour devenir comportementaliste canin, intervenante en comportement canin. Et j'avais pas encore trouvé la place pour où je voulais faire ma pension. Fait que j'ai décidé de commencer à devenir intervenante, tu sais. Après 4 consultations, j'étais genre, oh my God, c'est tellement ça que je veux faire. Je capotais sur aider les gens à mieux comprendre leurs animaux, à prendre conscience de plein de choses qu'ils ne prenaient pas conscience. Et fait que là, ça fait 4 ans maintenant que je fais ça. Je suis déménagée j'habitais pas à Blainville, j'habitais à Bois-des-Filions. J'ai vendu ma maison en 3 jours. Je suis déménagée au lac Beauport. Puis ça fait 4 ans maintenant que je fais ça.
Ouais. Mais ta passion se sent. Là, faut dire que tu fais de la consultation canine, mais avec un côté peut-être un peu spirituel, dans le sens où tu t'occupes de l'humain aussi à travers ça. Mm-hmm. D'où part ton approche? En fait, j'ai envie que tu nous expliques en quoi elle est différente de ce qu'on peut voir d'habitude.
Bien, moi, je pars de tout part de soi, dans le fond. Fait que, tu sais, si ton chien... il fait de la réactivité en laisse, ou ton chien n'est pas gérable, ou il te saute tout le temps dessus, ou il fait de la protection de ressources, ou peu importe. C'est que ça vient refléter quelque chose que toi, tu as travaillé sur toi. Dans ma vie, moi, ce que je crois, c'est qu'on s'incarne sur Terre pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, puis changer nos affaires, tu sais, régler nos traumas, si tu veux. Mm-hmm. Mais on n'est pas tellement conscient de nous-mêmes, tu comprends? Fait que ton chien et vos enfants, mais moi, je parle juste des chiens, sont là pour venir vous faire prendre conscience de ce que tu as travaillé sur toi pour devenir la meilleure version de toi-même.
De certains comportements que tu peux avoir.
Exactement. Okay. Fait que là, c'est pas juste « Ah, oh, mon chien est réactif, je suis réactive. » Ça se peut que tu sois réactive. Mm. Mais ça se peut aussi que ton chien te fasse prendre conscience qu'il faut que tu apprennes à mettre tes limites dans ta vie. Que tu apprennes à t'affirmer dans ta vie. Puis, pour vrai, chaque fois que je viens relater à l'humain qu'est-ce que son chien vient lui transmettre à travers ses comportements dérangeants, ça fait toujours.
Parce que le chien teste les limites?
Bien, souvent, soit ouais. Ça, ou bien, quand il est réactif en laisse, là, il ne teste pas les limites. Là, il dit à l'autre animal, hey, toi, t'es mieux de ne pas venir ici. Genre, je mets mes limites claires et précises en te grognant puis en te jambant après que je ne veux pas que tu viennes me voir. Mais l'humain a de la misère à mettre ses limites dans la vie. Mm-hmm. A de la misère à s'affirmer.
Ça, tu l'as. Ben, c'est, en fait, c'est logique, mais je veux dire, à travers ta pratique, tu l'as découvert comment? Parce que là, tu as fait ta formation qui était strictement pour l'animal.
Exactement.
Mais après ça, comment tu te.
Bien, moi, j'ai eu comme mon éveil spirituel en 2021. Puis là, j'ai beaucoup travaillé sur moi, puis ben j'ai 2 chiens, hein, fait qu'il veut pas, genre...
Il faisait partie du processus.
Ben exactement. Puis j'ai mes 2 chiens qui sont là pour venir me montrer différentes choses. J'en ai un qui est pareil comme moi, qui est comme... Ça peut pas être... Ben Bali, cet être très intense que j'avais de la misère à gérer, ben c'était comme mon miroir de genre, hey, t'es pas capable de te gérer toi-même, puis t'es super intense, puis tu t'acceptes pas, puis tout ça. Puis j'ai mon plus vieux, 11 ans, Bali, Enzo, que lui, c'est vraiment... Il vient me montrer des affaires que je sais même pas que je fais.
OK.
Tu comprends? Fait que c'est dur pour moi de comprendre ce qu'il vient m'expliquer parce que je suis pas consciente que j'ai ces comportements-là.
Okay. Est-ce que, parce que un chien peut avoir 2 mètres, là, ou peut-être 1, tu sauras me le dire par la suite, Sophie, mais tu sais, moi, quand je suis dans la maison, là, le chien monte jamais sur les divans, il monte jamais sur le lit, il est tout le temps à ses affaires, il fait quand même un peu de protection de ressources, mais c'est pas si pire que ça. Puis quand ma conjointe est à la maison et je ne suis pas là, tu sais comment je le sais, Audrey? Elle m'envoie des photos. le chien vit sa best life avec sa mère. Oui. Là. Il est sur le divan, il se couche pas sur ses 4 pattes. Là. Il se couche sur le dos, sur le divan, les pattes en l'air. Il est super heureux. Sa mère va faire un petit somme l'après-midi, samedi puis le dimanche. Là. Il s'en va se coucher à côté d'elle sans aucun problème.
Mais il est différent avec toi qu'avec elle.
Dès que je suis dans la maison, là, ça devient le chien adorable que j'ai toujours voulu avoir.
OK. Bien, ça, c'est parce que, dans le fond, chacun des humains ont des choses différentes à travailler sur eux.
Fait qu'il faudrait que je mette ma blonde dehors.
En fait, peut-être
que... Hey, t'as tout compris, Yann! Merci, Sophie!
Mais je pense qu'en fait, elle, ça ne dérange pas. Tu sais, elle est comme... Ou peut-être qu'elle est plus permissive ou qu'elle met moins ses limites. Puis toi, t'es quelqu'un qui est très, genre, autoritaire, un peu peut-être... Je te connais pas. Contrôlant, peut-être.
Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai pas de demi-mesure. Fait que si je choisis qu'on ne nourrit pas l'animal à table, je ne nourrirai jamais l'animal à table. Mais il y en a qui disent, ah là, on fait pas ça, mais là, ça va être une surprise. C'est une exception. Bien, c'est sûr que le chien va toujours venir te gosser.
Et toi, vu que t'es constant puis assidu, ça marche full bien.
Oui, c'est moins pire que...
Ta blonde est genre...
dominant, toxique?
Que, non. Il n'a pas aimé le terme contrôlant.
J'ai dit contrôlant.
Non, mais
moi je dis ce que généralement, pourquoi un chien il foule sa coche, c'est souvent peut-être son humain est contrôlant, mais comme je te dis, je ne te connais pas. Fait que mais finalement, tu es assidu puis constant, fait que félicitations.
Oui, exact.
Ton chien vient te refléter que tu es assidu et constant.
Ouais. Donc, il vient jamais à côté de moi à table, mais il va tout le temps à côté des gens qui font des petites exceptions des fois. Pauvre-tu, un petit bout de poulet.
Mais c'est ça, il n'est pas innocent chez nous. Je veux dire, en fin de semaine, moi j'aime ça, la fin de semaine, quand tu viens juste au bout du lit, trois secondes, que je puisse dire bon matin, puis le flatter, mon chum, il est ça pour mourir. Mon chum était en douche, fait que, mais t'es bonhomme, je fais signe, attends, tu peux monter, il n'est pas là, tu sais. Au moment où il montait, mon chum sortait, puis il a lâché un. Hey, t'aurais dû y voir la face, toi, c'était un mime, sa face de chien, parce que là, il a fallu qu'il descende, là, il n'a pas pu monter, là.
T'sais, il a comme fait.
Ah, mais ses comportements sont vraiment différents d'un à l'autre, dépendamment, effectivement, de comment toi tu le gères, ouais, tu sais. Moi, je peux pas aller en forêt avec mon chien tout seul, une fois sur deux, je perds le contrôle, parce qu'il m'écoute pas. Quand mon chum est là, par exemple, c'est l'inverse. Moi, je peux lui faire toutes sortes de niaiseries, par exemple.
Mais comment ça s'ajuste, ça, Sophie?
Qu'est-ce que tu veux dire, comment ça s'ajuste?
Comment tu peux dresser deux êtres humains pour qu'ils puissent bien agir avec le chien?
Ben, tu sais, après ça, moi, je fais la consultation, puis les gens, ils font bien qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, moi, je suis pas rendue dans la maison à vérifier que tu es assidu, constant, puis que les deux font la même chose, tu sais. Fait que c'est aussi un truc de communication entre les deux humains. Puis de faire comme, OK, ben là, tu sais, faire prendre conscience à l'autre. Ah, ben là, on avait dit qu'on faisait pas ça de même, nanana. Fait que, tu sais, à quelque part aussi, c'est le chien va être. C'est plus facile, comme pour un enfant, de savoir quoi faire si les deux humains s'entendent.
Cohérent, oui.
Ça prend, mais cohérence, constance et assiduité. Mmh. Tu sais, fait qu'après ça, moi, je viens prendre j'ai montré, le chien fait ça avec la femme, ben voici ce que la femme a à travailler sur elle. Le chien fait ça avec l'homme, voici ce que l'homme a à travailler sur lui.
Puis les gens, est-ce qu'ils viennent vers toi parce qu'ils savent que tu pratiques de cette façon-là ou ça arrive des fois qu'ils sont un peu surpris? Il y en a-tu des fois qui sont comme, « Fais-tu une thérapie, là? »
Pas mal surpris.
Ah ouais, hein?
Mais pour vrai, en fait, au début, quand j'ai commencé à juste être, ben comme ça, les gens le savaient pas, là. Je veux dire, je l'annonçais pas tant. Maintenant, je l'annonce, puis moi, je me dis que j'attire ce que je vibre, fait que les gens qui sont prêts à recevoir ce que je vais leur transmettre comme information, ben ils viennent à moi.
Puis as-tu déjà eu certaines études, c'est mettons, je sais pas moi, travailleur social, ou des études qui font que tu es capable de bien lire l'humain, la psychologie de l'humain, ou c'est vraiment avec le feeling,
non, c'est vraiment
l'énergie du chien?
Ouais, okay. Ouais, c'est vraiment. Puis mon grand-père, dans la main, il m'a dit, ah, ça serait le fun que tu fasses. C'est tellement beau, genre, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais faire un cours en psychologie. Je suis comme, tu sais, tout ça, c'est intuitif. Puis moi, je fais aussi la communication animale. Fait qu'on peut faire de la télépathie animale. Là, c'était pas dans le sujet, mais.
Mais comment ça va? Oh, mais là, ta minute, là, c'est que tu t'en vas avec ça de la télé. Je veux parler avec mon chien.
Bien, en fait, il y a beaucoup de gens qui font de la communication animale. Puis tout le monde a la capacité de faire de la communication animale en se connectant en télépathie avec son chien. Mais tu sais, là, on a fait des formations puis tout pour se rendre là. Mais moi, je pense que je suis capable tellement de saisir l'humain quand j'arrive là que je suis pas mal certaine que inconsciemment le chien, que je m'en rends pas compte, mais le chien m'envoie de l'information pour que je le transmette à l'humain.
OK. Fait que t'es capable de saisir la personne que t'as devant
vraiment
toi.
Vraiment rapidement.
Puis quand tu parles de cette espèce de télépathie-là, comment ça marche, mettons, concrètement?
Bien, concret. Tu sais, le concret avec la télépathie, je dirais pas que c'est le mot qui match le plus.
Non. C'est sûr qu'en partant, il faut que tu sois ouvert à ça. Là,
exactement,
je pense.
Mais dans le fond, moi, je me connecte, je fais juste penser à l'animal, je fais comme une bulle entre lui et moi, je me connecte avec l'animal, puis moi, je suis de l'écriture automatique, fait que je vais écrire ce que je reçois de l'animal.
OK.
Puis il y a des gens qui communiquent, genre, ils reçoivent des images, le chien communique avec eux par des images, il y en a qui entendent. Fait que, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font ça, de la communication animale. Parfois, genre, quand tu sais pas un comportement que ton chien fait, ben je peux être la meilleure comportementaliste ever. Si tu vas pas voir un communicateur animal, ça se peut qu'on trouve pas le.
Puis là, je vais jouer à la sceptique.
Je dois être plate, hein, moi. Je fais juste parler à mon chien, lui, il me fait juste me grogner ou me japper après.
Définitivement, vous ne communiquez pas non. Bien.
Mais vous communiquez quand même. C'est une autre forme de communication. Puis si tu le comprends, ben c'est intéressant. T'sais.
T'sais, c'est les mots que j'utilise, c'est toujours les mêmes mots. Ouais. C'est des mots toujours très simples. Mais, j'ai rencontré.
Mais c'est ça, ils nous disent, même avec le nom du chien, ils nous disent de choisir des syllabes qu'ils vont reconnaître ou des mots-clés. Ou...
Non, mais les chiens sont vraiment intelligents, guys, là.
Pour... Plus qu'on parle.
Tellement plus que vous
pensez. On les prend pour des cons.
Vraiment.
J'ai rencontré un gars au parc à chiens à Val-Bélair. Puis lui, il parle en français, mais il parle uniquement à son chien en anglais.
Ouais.
Donc, il donne des ordres en anglais. Puis là, je dis, mais pourquoi tu le fais en anglais? Il dit, parce que la majorité des gens autour, ils parlent français. Fait que avec moi, c'est juste moi qui utilise ces mots-là, c'est pas les autres.
Fait qu'il est jamais confus.
Mais le chien, il est droite, là. Il est droite, là.
Ah ouais.
Fait que c'est toujours des mots simples. Lui, il le fait juste en anglais parce que tout le monde autour parle français. Fait qu'en disant des mots simples en anglais, ben le chien, il est pas mélangé.
C'est un berger allemand?
Non.
OK.
C'était un malamute.
Mm. C'est des chiens qui sont super intelligents. J'ai le goût de t'amener dans le côté très sceptique des gens qui nous écoutent, qui peut-être croient moins à cette affaire de télépathie-là. Est-ce que, parce que tu sais, je veux dire, ils en font mille et un documentaires. Il y en a encore un qui est sorti sur Netflix là, pour bien comprendre ton chien. Mm-hmm. Puis tu sais, souvent, de façon scientifique, on nous dit, mettons, tu sais, à un moment donné, il y avait la rumeur, je ne sais même plus si c'est vrai ou pas, que les chiens voyaient juste en noir et blanc. Les chiens peuvent pas nous comprendre. Les chiens sont limités avec des mots-clés. Comment, toi, tu joues avec ça, justement, ce côté scientifique-là?
Bien, en fait, ça a été prouvé scientifiquement, là, par... J'ai eu une formation avec un homme qui s'appelle Martin Godbout, qui est un... voyons, un vétérinaire.
OK.
Et lui, il disait... Lui, il est full dans la physique quantique et tout ça. Puis il disait que, tu sais, je veux dire, tout ce qui est à l'extérieur de toi est un reflet de ton intérieur. Fait que ton chien, c'est ton miroir, tu sais. Fait qu'à quelque part, après ça, tu peux être bien sceptique. Mais si tu t'analyses ton chien, là, puis tu regardes, OK, aujourd'hui, je fais comme la marde, je vais checker mon chien comment. Tu vas voir que c'est assez proportionnel.
Il y a un lien des fois. Puis le pire,
c'est... Pas des fois.
Souvent. Puis le pire, c'est que tu remarques des fois, je sais pas, Yann, c'est le tien de même, mais moi, mettons, je sais pas, il pleut. Il pleut depuis toute la semaine, puis je peux aller prendre des grandes marches avec ou des... Je le sens dans la maison quand il y a besoin de bouger. Tu sais, des fois, t'as l'impression que ton chien, il faut jouer après toi. Ça te fait ça, toi? Tu pars de la maison, puis il boude, là. T'as l'impression que comme il est pas content que tu quittes, là. Je me sens folle
en
disant ça.
Non, c'est une façon d'être qui développe, là, pour te faire sentir mal. Mais oui, tous les chiens, à tous les jours, doivent sortir puis dépenser leur énergie. Sinon, t'es pas capable de rien faire avec eux.
Mais de toute façon, si t'es pour avoir un chien pour laisser chez vous, puis rien faire avec, et un toutou.
Exactement, n'en est pas. Il y a des textos qui entrent. Il y a des gens qui sont très curieux de ta pratique. Tu sais, il y a quelqu'un qui nous dit j'aurais probablement besoin de quelqu'un comme elle pour m'aider. J'ai un traumatisme parce que mon chien s'est fait frapper dans la rue. Et aujourd'hui, mon chien est toujours attaché quand il est dehors. Je ne donne plus de liberté parce que cette personne-là est stressée de ce qui est arrivé dans le passé et plus capable d'offrir cette liberté-là à son animal.
Fait que je pourrais absolument aider cette personne. Parce que moi, c'est ça. Fait que moi, je pars du point que le chien vient refléter un trauma de l'humain, souvent. Fait que là, si on travaille sur l'humain, ben on va avoir beaucoup plus de résultats avec le chien. Puis aussi, comme c'est un effet miroir, c'est soit que le chien, il vient te montrer qu'est-ce que tu es ou bien qu'est-ce que tu n'es pas. Fait que des fois, c'est dur de faire la nuance entre les deux.
La distinction.
Fait que moi, je suis comme l'intermédiaire entre le chien puis l'humain pour que l'humain comprenne ce que son chien essaie d'y montrer. Puis moi, j'ai... Tu sais, concrètement, avec mon chien, là, pendant 10 ans, il a fait un comportement X, OK? À chaque fois qu'il était lousse dans la forêt, si on voyait un autre chien, s'il se sentait micro-menacé, là, il l'attaquait. Puis là, j'étais là, c'est quoi ça? Tu sais, moi, je sais que mon chien, c'est mon miroir. Fait qu'est-ce qu'il essaie de me faire comprendre? Tu sais, je comprenais pas. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, là, si je me sens menacée, je t'attaque. Bien, verbalement.
Oh, ouais.
Fait que là, quand j'ai pris conscience de ça, mon chien a littéralement arrêté de faire le comportement après 10 ans. De faire le comportement.
OK.
Fait que c'est that powerful, ta relation avec ton chien. Fait que si tu vois tous les comportements désagréables de ton chien comme un propulseur d'évolution pour toi, puis de faire comme, hey, OK, mon chien, il essaie de me montrer quelque chose, je vais travailler sur moi, je travaille sur le chien, puis là, on a des résultats vraiment rapides.
OK. On parlait de la protection de ressources tantôt. Moi, j'en ai un qui s'amuse à faire de la protection de ressources et grogner. Il se fait un malin plaisir. C'est pas un chien qui est agressif, là. Il mordrait jamais personne. Mais quand on lui donne de la nourriture, même s'il a pas faim, il va aller où son bol, il va mettre des petites crottes à côté de son bol, puis après ça, il va nous regarder. Mais si on le regarde pas, il va aller voir les chats à l'autre bout de la pièce pour aller grogner 5 secondes après le chat pour revenir à son bol puis fixer son bol. Certaines fois, il décide que le plancher lui appartient. Fait que si on rentre dans le salon puis il est couché sur le plancher, on met un pied sur le plancher, il fait « puis on lui dit « Hey, c'est le plancher de tout le monde. »
Ça va être beau.
Puis il se calme. Le soir, quand je rentre dans la chambre, si je suis le dernier à rentrer dans la chambre, sa mère est couchée. Lui, il est couché à côté, à terre, à côté de sa mère. Si j'ai le malheur d'ouvrir mon écran de cellulaire, là,
wow.
Il grogne.
Ça veut dire, peux-tu être dans le moment présent, genre ici maintenant?
Tu penses?
Les chiens, là, ils sont connectés 100% à leur main.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment faire pour enlever cette protection de ressources-là. Je ne suis pas comme ça, moi, personnellement, là. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il protège cette ressource-là? Parce que c'est un jeu pour lui. Là. Il grogne, les enfants passent à côté, il fait juste grogner. Là,
il communique comme ça aussi. Ouais. Là. T'sais, lui, il est genre, hey, ça me tente pas que tu aies une projet mon bol. Puis d'un, moi, mon chien, s'il était comme ça, jamais je laisserais la bouffe lousse. Là.
Ah ouais?
Je le nourrirais matin et soir à ce moment-là. Puis si tu manges pas, j'enlève ton bol puis je le laisse pas là. Parce que lui, c'est stressant pour lui d'avoir à protéger sa nourriture tout le temps. Là. Fait que d'enlever son bol, c'est juste, ça enlève un grand stress pour tout le monde, tu sais, parce que lui... Puis c'est pas juste... tu sais, c'est ça. Fait que lui, il est stressé que le monde lui vole sa bouffe parce que peut-être qu'il est arrivé quelque chose quand il était jeune, peut-être qu'il a manqué de bouffe quand il était jeune, peut-être que, tu sais, parce qu'ils ont leur truc à eux aussi, même si c'est ton miroir, là.
Ça peut-tu être dans leur ADN, c'est-à-dire que le père ou la mère
génétiquement, absolument. Était quand très protecteur. C'est pour ça que quand on choisit un chiot, là, c'est tellement important où on le prend. Puis de ne pas aller sur Kijiji puis Marketplace pour trouver un chien, puis de rencontrer les parents. Fait que quand tu vois le comportement de maman-papa, ça donne une bonne idée comment va être ton chien. Fait que si tu vois que maman est anxieuse puis le papa il est agressif, ben va-t'en en courant.
OK. Parce que si je lui donne le bol quand il a faim, là, puis finalement, je sais pas, moi, il arrête de manger à moitié là, du bol, là. Je peux plus retoucher au bol. Là. Il est à côté puis il surveille. Là.
Mais il y a vraiment moyen de... Ben, tu vois, fait que c'est intéressant. J'aide les humains à régler la protection de ressources parce que, à quelque part, quand il était jeune, est-ce que tu as essayé d'enlever son bol, comme il disait, ou mettre sa main dans son bol?
Pas du tout. Mais nous autres, c'est vraiment un chien familial. Là. C'est le toutou de la maison. Puis il a jamais manqué de nourriture. En fait, il en a tout le temps dans son bol.
Mais il peut avoir un trauma de quand il était jeune, comme je te dis. Ouais. De 0 à 2 mois, là, comme les enfants. Ben, c'est engrammé, un trauma. C'est comme...
Es-tu capable d'y enlever?
Ben, en fait, y enlever, c'est une chose. Pas tant y enlever, mais... de comprendre que chaque fois qu'on vient vers lui, c'est full positif. À un moment donné, il est comme « OK, ben tu peux venir vers moi. D'abord, il n'y a pas de stress. » Mais tu sais, un chien qui est full de même, tu le nourris dans une autre pièce, tu t'ouvres la porte quand il a fini, puis après ça, ben tu y vas y pitcher des gâteries plus loin, tu t'enlèves le bol, puis c'est tout. Là.
C'est ça. Parce que pour ce qui est des activités physiques, je suis tout le temps là avec mon chien, mais pour ce qui est du comportement, tu sais, en fin de semaine, je l'ai réessayé. Là. Il s'amusait. Il n'y a personne qui le regardait. Il était fâché. Lui, il regardait son bol. Puis là, il sort si quelqu'un le regarde, personne ne le regarde. Mm. Fait que là, il s'en va à l'autre bout de la pièce. Les chats étaient bien effoirés. Il se sacrait éperdument du chien. M'emmener le chat sort vire, le chien le regarde. Puis il retourne à son bol. Là, je me dis, ah, ben, je vais sortir les minouches, tu sais, les petites surprises.
Ouais.
Puis j'avais beau y pitcher des surprises. Lui, ce qui focusait, c'était son bol. Fait que c'est dur
C'est particulier.
Ouais,
hein?
C'est vraiment dur. Puis la protection de ressources, ça peut être complexe pour des gens qui ne connaissent pas ça. Mm-hmm. Toi, tu dois en régler souvent les protections de ressources. Là.
Ben oui, mais il n'y en a pas tant que ça.
Non?
Non.
C'est quoi le comportement le plus grand trouble, mettons?
Ben, ça dépend pour qui. C'est toute une question de perception, là. Mais les gens, là, généralement, la réactivité en laisse, c'est quelque chose qui les rend vraiment anxieux. Là. Parce qu'ils ont tellement peur du jugement, les gens.
Ils ont peur de ce que les autres vont dire, mais qui arrivent prochainement. 100%.
100%. Fait que moi, je leur apprends. Mais le chien vient aussi t'apprendre à, genre, te libérer de ta peur du jugement.
Mais c'est quand même un bon point parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ose pas sortir en laisse parce que dans leur tête, leur chien est mal élevé. Ça veut dire qu'ils ont mal élevé leur chien. Mm-hmm. Puis pour eux, c'est gênant, je vais le dire comme ça.
Oui, absolument. Fait que le chien, là, il va faire des comportements pour trigger quelque chose en toi pour que tu puisses prendre conscience que tu as ça à travailler.
Le choix du chien qu'on fait.
Tellement important.
Tu sais, on a parlé, les comportements, les ci, les ça, mais en même temps, si le chien se connecte à l'humain, si je reste, mettons, dans ta pratique, est-ce que c'est vrai à ce moment-là qu'il faut que tu regardes selon les besoins de ta famille, selon quelle race tu vas prendre ou tu es capable de régler les comportements d'un chien, peu importe?
C'est vraiment important de choisir la race, là. Si t'es une patate de divan, va pas te chercher un husky, là. Ta vie va être un cauchemar, là. Tu comprends?
Ouais.
C'est sûr. Puis, tu sais, si on peut... En même temps, bien choisir son chien puis de ne pas finir par l'abandonner parce que tu l'as mal choisi, parce que tu ne comptes pas ses besoins puis que ton chien, c'est un monstre. Tu sais, à quelque part, tout arrive pour une raison, là, dans ce que moi, je crois. Là. Fait que ton chien, il va t'apprendre que, genre, fais les bons choix dans ta vie ou bien, tu sais, va plus t'informer. Ou tu sais, mais c'est vraiment important, la race de chien qu'on choisit. Là. On ne va pas chercher un Malinois si on est Netflix and chill every day.
Non, je te suis complètement là-dessus. Nous autres, avec la patate de Golden qu'on a à la maison, il faut bouger beaucoup, là, puis on le sent justement quand on bouge pas assez. Il y a des gens qui nous mentionnent, qui sont allés visiter ta page, savent que, bon, tu vas déménager. Mm. Est-ce que tu peux continuer de faire de la consultation dans la région? Est-ce que les gens peuvent quand même t'écrire?
Oui, les gens peuvent absolument m'écrire. Là, je suis là toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine, que j'ai de la disponibilité. Puis, je peux faire des consultations à distance, évidemment. Mais c'est sûr que je déménage à 3 heures d'ici, à Sainte-Julienne, dans la Naudière. Alors, c'est sûr que pour la protection... Tu sais, pas la protection des ressources, mais pour les chiens réactifs en laisse, qui est l'affaire que je fais le plus, là, ben on pourra plus le faire parce que je travaille avec mes chiens. Fait que là, j'ai plus de... Tu sais, je loue mon appartement parce que j'ai un duplex. Fait que je loue, alors je pourrais plus faire de consultations vraiment en vrai.
Mais pour les questions et tout, tu restes disponible. Ta page Facebook?
C'est Saucomplice comportementaliste canin-humain. Oui, voilà.
Quelqu'un qui me dit « Salut les amis, mon chien a 147 livres, il me protège trop. Si un étranger s'approche de moi, il fait semblant de leur croquer la main. »
147 livres.
Ah ouais, c'est énorme.
C'est peut-être overweight aussi,
c'est une belle
le chien.
Mais est-ce que, tu sais, là, c'est un gros chien, 147 livres.
Mais c'est quoi la race? Tu sais, si tu as choisi une race que dans son passé, genre, c'est un chien, tu sais, sa génétique, c'est un chien de garde.
Ouais.
Ben ton chien, c'est génétique. C'est un chien de garde. Puis peut-être que, sans que tu le saches, toi, tu as besoin d'être protégé parce que tu as peur de tout ce qui est à l'extérieur de toi.
Oui. Mais les petits maudits chihuahuas, ça n'a jamais été des chiens de garde, puis pourtant, ça en devient.
Les chihuahuas, c'était intéressant. C'était des chiens d'Aztèques.
OK.
Puis c'était des chiens qui... c'était des chiens rois et des chiens qui, ben oui, jappaient pour avertir.
Ah, tu vois, ça me surprend pas. C'était des chiens rois.
Ouais.
C'est dommage. Mais non, mais c'est ce qu'ils représentent. C'est fou. T'es beau, les petits maudits bas de culotte.
C'est intéressant de venir aller, avant de choisir une race, il était fait pour quoi, ce chien-là, dans le temps?
Ouais.
On peut-tu, genre, aller regarder
il
ça?
Il servait à quoi?
C'est un montagne
d'où?
Des Pyrénées. T'es comme, oh, c'est une grosse patate, mais c'est un chien de garde, puis il garde la maison. Ben, girl, t'as choisi un chien qui est un chien de garde. Fait que c'est génétiquement, les meilleurs ont été reproduits. Fait qu'à quelque part, ça reste ça, dans la lignée.
Ah,
c'est super
important.
C'est
le meilleur chien que j'ai eu pendant des années. Je m'en ennuie. C'est Yuki. C'est un carlin.
J'étais sûr que t'allais dire ça. C'est drôle.
Puis sérieusement, avec les enfants, là, les bébés naissants, là, c'était le chien idéal.
Mais c'est parfait.
C'est intéressant parce que c'est pas parce que lui est extraordinaire qu'ils vont tous être extraordinaires, les carlins. Ah. C'est vraiment important aussi de faire comme... Ça dépend de où ils venaient. Puis aussi de pas... Ah, ben mon ancien chien était de même. Puis là, ben là mon nouveau chien n'est pas de même. Tu sais...
Je vais reprendre un Golden parce que les Golden
non,
sont toutes fins.
Ça veut vraiment pas dire. Puis, d'ailleurs, les Golden, là, c'est des chiens qui font beaucoup de protection de ressources.
Ah ouais?
C'est les chiens que j'ai eu le plus pour la protection de ressources. Fait que c'est génétique, là, la protection de ressources.
Mais nous autres, on s'était fait dire quand on était petits, là, sois proche justement de sa bouffe puis ses jouets.
Ça, c'est pas vrai, ça.
Ah, au moins, c'est un mythe.
Ouais.
Oh.
Ben, en fait, les jouets, OK, là, s'il fait pas de protection. Mais comment qu'on règle, si tu veux, de la protection de ressources? Puis là, je vous dis pas de faire ça à la maison puis de pas appeler un comportementaliste, là, parce que ça se peut que vous, tu sais, il y a un timing puis tout, là. Mais c'est pas genre, je vais mettre ma main dans ta bouffe. Tu sais, moi, si j'arrive, t'es en train de manger, t'aimes full ce que tu manges, puis moi, j'arrive, genre, puis je mets ma main dans ton assiette, tu vas être comme, hey, qu'est-ce que tu fais là? Mais les chiens, ils devraient avoir le goût, là, qu'on mette notre main dans leur bouffe.
Ouais, ça marche pas de même.
Fait que c'est de faire un peu comme le parallèle entre nous et eux. Puis c'est vraiment de rendre notre approche positive. Fait qu'à chaque fois qu'il mange, ton chien, tu t'approches, puis tu vas lancer une gâterie, mettons, vraiment plus nice que sa bouffe. Ou bien tu t'approches, puis tu vas te mettre à jouer avec ton chien. Ou tu sais, fait que là, ton chien, maintenant, dès que tu t'approches du bol, il te regarde, genre, oh mon Dieu, ça va être le fun parce que maman s'en vient avec de la gâterie ou avec un jeu ou avec quelque chose.
Okay.
Pas de mettre ta main dans la bouffe, puis hey, genre, ça, c'est un besoin de contrôle imminent pour moi. Là.
Tu vois, France nous réécrit concernant son chien de 147 livres. Là, je comprends pourquoi c'est un chien protecteur, c'est un canne corso.
Ben là, girl. Alors, madame, dans le fond, vous avez choisi un chien qui est un chien de garde.
Ouais. Non, mais c'est une. Elle dit que c'est une personne aussi qui est malade, qui
ah,
est fragile.
Vois...
Fait que probablement qu'il y a ça qui
ben,
ajoute
exact.
Aussi.
Exact. Fait que comme je disais, inconsciemment, ben pas inconsciemment, elle le sait, là, elle a besoin de protection parce que c'est quelqu'un de fragile. Fait que son chien fait exactement sa job.
C'est
fou, hein? Fait gratitude infinie.
Hey, c'est super intéressant. En tout cas, les gens réagissent. Fait que définitivement, je veux dire, ceux qui ont des animaux aiment beaucoup ce qu'on vient de faire. Donc, vous rappelez la page Sceaux Complices sur Facebook. C'est Sophie Véronneau qui était avec nous ce matin. Merci d'avoir pris le temps.
Hey, hein? Ça me fait vraiment plaisir.
Super intéressant.
De voir aussi, tu sais, une autre manière un peu de son chien.
Notre
approche. À place d'être toujours fru, essayer de faire comme, hey, comment... Qu'est-ce qu'ils essayent de me transmettre comme message? T'sais, comment je peux... T'sais, nos chiens, là, ils viennent nous décharger de nos énergies négatives. C'est des êtres vraiment extraordinaires. Pour moi, c'est comme des guides, genre, qui viennent nous aider dans notre vie. T'sais, fait qu'à la place d'être fru, là, on peut-tu essayer genre, d'être dans la compassion, l'amour, puis genre l'acceptation?
Bien, c'est intéressant parce qu'on a une tendance à être impatient des fois quand on élève un chiot ou un chien. On a tendance à... T'sais, il y a une époque où on faisait beaucoup la promotion en Yann des chokers, entre autres. Fait que c'était pas l'approche la plus douce, délicate.
Il y avait les chokers, il y a eu les colliers électriques aussi pour empêcher les chiens de japper.
Mais ça, tu vois que les gens ont un besoin aussi de contrôle vraiment grand, là.
Mais oui.
Tu sais?
Mais oui. Mais c'est parce que c'est comme ça qu'on s'est fait...
Programmer.
Mais oui, mais programmer, éduquer ces chiens-là. T'sais, moi, celui que j'ai en ce moment, c'est le premier que j'ai. Mm. Fait que quand on m'a conseillé de le mettre propre de telle façon, d'agir de telle manière pour la laisse, ben, t'écoutes parce que tu sais pas comment faire autrement. Fait qu'il y a ça aussi qui peut être intéressant.
Yes. Mm. Un gros merci.
Hey, merci.
On fait une courte pause, 10h57. Vous avez des choses à nous dire. 418-971-1021. Red against le matin. Le matin. All right. On est quoi, là? On est lundi, 16 septembre. À tous, un excellent lundi. C'est bien parti, Audrey?
On est juste lundi. Mais oui, c'est bien parti.
On a-tu retrouvé ton chauffeur de taxi qui ne sait pas trop conduire?
Je pense pas, non. J'ai laissé aller l'histoire. Je l'avais juste gardé pour vous.
Audrey est partie de la rue Saint-Jean. T'as un débit de boisson de la rue Saint-Jean. À quoi, 3 heures du matin?
Il devait être à ce moment-là peut-être plus 1h45.
Tu t'en venais vers le Bourgneuf.
Oui.
Une run d'à peu près 20$.
Ben, c'est une run de 12 minutes. Fait quoi, 20-25.
Et chauffeur de taxi, son compteur était rendu à 100$.
Oui, un peu moins de 100$ après plusieurs sorties manquées et du temps supplémentaire non voulu.
Il voulait passer. Ben, en fait, il voulait être plus proche de toi, je pense. Ça se peut-tu?
Ben, écoute, on était quatre dans le char, fait que je peux pas te dire, mais ça a été fort désagréable.
Ouais.
Ceci dit, de bonne humeur en matin.
Hey, sujet super intéressant qu'on a vu en fin de semaine, toi et moi, sur le site de Radio-Canada. On parlait de contraception masculine. Techniquement, ouais. Je pensais pas que ça existait. Je suis tombé là-dessus. Moi, j'ai régulièrement parlé de contraception avec mes anciennes conjointes. Je dis anciennes conjointes, je n'ai pas eu de temps, là. Mais j'ai été 15-16 ans avec la même. Donc, tu comprendras qu'à un moment donné, ça a pris le bord, la contraception. Mais je me suis posé la question quand j'ai lu l'article « Contraception masculine ». Si elle était disponible aujourd'hui, est-ce que je la prendrais? Je pense que oui.
J'espère.
Oui.
J'espère parce que là, la seule solution qu'on a, c'est la femme qui prend la pilule, le stérilet ou n'importe quelle hormone là, pendant des années. Puis souvent, le gars va se faire chopper après avoir eu des enfants, tu sais. Mais ça serait le fun qu'il y ait d'autres options que ça, surtout vu les conséquences souvent que ça peut amener, tu sais, pour la femme, la prise de contraceptif. C'est super intéressant parce que on part, en fait, de tests qu'on a fait aux États-Unis. Donc, on a pris 200 hommes dans le monde qui ont testé un gel contraceptif. Ça a l'air assez particulier, mais ça s'appelle le Nesti, Nestorone et Testostérone, donc un gel hormonal qui passe à travers la peau, tout simplement. Et là, on leur a fait tester ça pendant un bon moment. L'étude s'est entamée en 2018. Puis on dit que ce serait même mieux qu'une contraception féminine. Fait que là, ça donne de l'espoir, Yann, là. Ça donne de l'espoir à pas mal toutes les femmes de la planète qui peuvent ou qui ont accès à cette pilule-là puis sont tannées de la prendre.
Ouais.
Peu importe la raison, le saut d'humeur, prise de poids, tout ce que tu voudras. Puis ça donne de l'espoir aux gars aussi parce que il y a le condom, mais quand t'es dans une relation depuis longtemps... Ben, le condom, t'as comme peut-être le goût un peu de t'en débarrasser.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu régulièrement des discussions concernant la contraception. Puis deux fois, ça m'est arrivé dans ma vie de rencontrer une fille qui m'a dit « Yann, je suis en train de devenir folle. » Puis eux autres, c'était le fameux...
stérilet.
Le fameux stérilet. Là. Ça a l'air que ça peut être dramatique dans certains cas pour des femmes.
Ben, c'est parce qu'il n'y a personne qui réagit de la même manière. Rendu là, on est complètement ailleurs, mais je fais un parallèle. Tu sais, les antidépresseurs, c'est pas la même marque, la même sorte, le même dosage qu'il va faire pour personne. Ben, pareil pour un contraceptif que tu donnes à une femme, finalement. Fait que pour parler de tout ça, pour démystifier, parce que là, on parle de ce qu'on connaît, mais il paraît qu'il y a même des moyens de contraception masculins qui sont utilisés ici au Québec, qu'on connaît peut-être un peu moins. La méthode thermique, on en a parlé tantôt, méthode qui traumatise Yann, donc on va la démystifier comme il faut. On parle avec Alexis Tétrault ce matin. Du groupe Les Contraceptés. Alexis, bon matin.
Bonjour, ça va bien Audrey, ça va bien Yannick?
Oui, merci d'être là. T'as à peine 30 ans, en fait, tu vas avoir 30 ans dans 6 mois, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure.
Exactement.
Ça fait combien de temps que tu utilises cette fameuse méthode de contraception masculine que personne connaît pour la plupart, là?
Ça doit faire 2 ans et demi maintenant, environ.
C'est quoi la méthode thermique?
En fait, c'est... Pour l'expliquer simplement, c'est tout simplement réchauffer les testicules de façon à venir cesser ou réduire de façon importante la production de spermatozoïdes et leur qualité en matière de mouvement, de transport, de déplaçabilité, si on veut.
OK. Et la technique que tu utilises, est-ce qu'elle a un nom, cette technique-là? Puis est-ce qu'il y a un appareil que tu achètes qui t'aide à réaliser cette technique-là?
En fait, la technique, on appelle ça la remontée testiculaire. Pour les gens calés en biologie dans votre auditoire, hein, c'est somme toute simple, c'est remonter les testicules dans les canaux linguinaux. Et pour les auditeurs de l'émission, c'est un phénomène qui arrive, par exemple, si vous prenez une douche très froide ou vous sautez dans un lac glacé, c'est l'endroit où vos testicules vont se retrouver pour essayer de conserver une chaleur propice à la reproduction. Et donc, la technique est fort simple. Dans mon cas, j'utilise un anneau contraceptif. Ça s'appelle l'AndroSwitch. Vous allez pouvoir, vos auditeurs vont pouvoir googler la chose. Et donc, ça fonctionne somme toute de la façon suivante. On parle d'un anneau de silicone d'environ, disons, 2 pouces de diamètre. Et donc, on va passer la verge à l'intérieur. Et lentement, on va tirer le sac testiculaire de façon à mécaniquement faire en sorte que les testicules remontent au niveau des canaux linguinaux, et pour donner une image, c'est au niveau du pubis, le bas du pubis.
On n'a pas le même appareil, toi et moi, Alexis. Comment est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que tu t'habitues vite?
En fait, ici, je ne vais même pas parler de ma propre expérience ou je ne vais pas commencer par cela. Là, une chercheuse qui a soumis sa thèse de doctorat en 2023, qui s'appelle Manon Guidarelli, et qui traitait de l'acceptabilité en fait, de la méthode. Et les résultats auxquels elle est arrivée, c'est qu'il y a un sentiment d'inconfort chez 57% des utilisateurs à l'intérieur des 5 premiers jours, ce qui est normal parce que c'est quand même une manipulation qu'on n'est pas habitué à faire, ce qui explique pourquoi Yannick avait peut-être un sursaut quand il a entendu parler de la méthode. Mais somme toute, après 10 à 14 jours, 89% des participants disaient s'y être habitués. Et dans mon cas, ça m'arrive parfois d'oublier que je porte l'appareil. Ça fait un peu le même effet que les lunettes, c'est-à-dire les premiers jours qu'on les porte, c'est un peu achalant, c'est étrange. Et après un mois, on se demande ils sont où, on les cherche partout dans l'appartement et on réalise qu'ils sont sur notre nez. Donc, c'est probablement une expérience similaire à ça.
Mais tu le portes constamment, là. Si tu l'enlèves jamais, dans le fond, pour être sûr qu'il n'y ait pas de production de spermatozoïdes?
En fait, dans la procédure officielle, on se retrouve, il faut le porter 15 heures par jour. Donc, normalement, on se réveille, on met l'anneau et on l'enlève au moment du coucher, pour le mettre simplement. Donc, c'est quand même une méthode qui convient à la majorité des gens qui ont un horaire, disons, stable, ce qui est quand même un élément important. Même chose dans l'étude de Guidarelli. La majorité des gens qui avaient des hésitations, c'est à cause qu'ils avaient un horaire de travail atypique.
Est-ce qu'on a testé le nombre de spermatozoïdes avec quelqu'un qui n'en porte pas versus quelqu'un qui en porte un?
En fait, oui, tout à fait. C'est le but de la méthode. Et qu'est-ce qui arrive? La méthode est considérée efficace à partir du moment qu'on a un taux de spermatozoïdes par millilitre de moins de 1 million. Et ici, je pense que c'est important de relativiser les nombres. Normalement, on va en avoir des dizaines et des dizaines de millions par millilitre. Donc, on a un nombre très réduit, voire en dessous de 5 millions. La majorité des hommes sont considérés infertile ou statistiquement infertile. Et donc, maintenant, il faut aussi garder en tête que non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais dans la mesure où il se déplace très lentement, disons que l'efficacité est double, à la fois au niveau du nombre et de la qualité, si vous voulez.
Et Alexis, ce que je trouve intéressant, parce que on a fait la même lecture, moi et Audrey, mais on a peut-être pas, on s'est peut-être pas arrêté sur les mêmes choses. Ce qu'on dit, c'est que quand le spermatozoïde est chauffé, bon, il y en a qui réussiront pas à être viables, mais les autres qui restent sont beaucoup plus lâches, sont moins vigoureux, puis sont moins portés à faire la course. Là.
Sont affaiblis.
Est-ce que tu confirmes?
Oui, c'est exactement ça. En fait, quand les utilisateurs font leur spermogramme, on va avoir un rapport du type de spermatozoïde et on tombe souvent avec des 60% où ils bougent tout simplement pas. Autrement dit, ça fait pas des soldats très forts pour aller se reproduire au final. Et ensuite, parmi ceux qui restent, ils sont somme toute très lents. Donc, ça n'ira pas loin dans la vie, disons.
Je connaissais pas la méthode, la fameuse méthode thermique là, dont on parle. C'est pas une méthode qui est avalisée par Santé Canada. Est-ce que tu penses que ça va l'être éventuellement? Penses-tu que ça peut devenir une méthode de contraception qui est reconnue?
Est-ce que ça peut l'être? Je le souhaite. Je croise les doigts qu'un jour... Et même si ce n'est pas la méthode thermique, qu'un jour une méthode de contraception masculine va être avalisée par Santé Canada, que ce soit le gel que vous avez parlé en début d'émission, la méthode thermique, ou encore une fois un autre système qui s'appelle le vasagel, qui pour le faire simplement, c'est un bouchon qu'on va mettre dans les canaux différents. Donc au lieu d'avoir une vasectomie qui coupe, on va venir boucher la chose. Donc d'autres méthodes, j'espère qu'un jour ça va être avalisé. Cependant, pour la méthode thermique, ce qui, disons, ralentit le processus d'acceptation par Santé Canada, c'est le fait que le nombre d'études sur le sujet ne sont pas encore assez élevées, si on veut, pour atteindre les standards de Santé Canada à cet effet. Et ce, malgré le fait que le nombre de recherches ont commencé depuis les années fin 80, le taux d'efficacité est réaffirmé régulièrement, la réversibilité aussi. Maintenant, là, un ensemble de paramètres qui exigera avoir une plus grande population testée sur le plus long terme. Par exemple, dans mon cas, avec les données que nous avons, Techniquement, je devrais arrêter de me contracepter à l'intérieur des 5 premières années, tout simplement parce qu'il n'y a plus de données passé le 5 ans. Donc, par prudence empirique, scientifique, j'arrêterai le port. Ça fait 2 ans que je le porte, donc j'arrêterai le port dans 3 ans par sécurité.
OK, mais je vais te poser une question de mon oncle. C'est mon oncle Marceau qui te parle. T'as pas peur en portant ça 15 heures par jour qu'à un moment donné, ça tombe?
Le dispositif ou les testicules,
je pense qu'il parle
c'est
de
pas
tes
clair.
Testicules, Alexis.
le dispositif, ça peut être gênant si ça tombe, là, mais la majorité des gens connaissent pas ça. Mais t'as pas peur de te faire mal?
Au niveau de se faire mal, je te dirais que c'est toujours possible de se faire mal. C'est comment dire, si on fait ça rapidement, ça m'est déjà arrivé de faire ouille parce que j'ai surtout dans les premiers mois d'utilisation,
je
on essaie de se
bon.
débrouiller, on est encore nerveux. Mais dans l'absolu, on s'y habitue,
Okay.
on le fait comme il faut et là, aucune douleur qui résulte de ça, à la fois lorsqu'on le met et à la fois lorsqu'on le retire.
Alexis, j'ai une question vraiment personnelle, tu as le droit de pas répondre, OK? Mais je me demande le cheminement dans ton couple. Comment vous en êtes venu à vous dire que éventuellement, ben, c'est toi qui prendrais le cap de la contraception, puis que je vais le dire de même, mais que tu t'imposerais ce mécanisme-là tous les jours, dans la mesure où c'est pas pour faire un comparatif, la pilule contraceptive a son lot de problèmes. Mais tu sais, je veux dire, nous autres, mettons qu'on prend la pilule puis que c'est pas un stérilet ou on avale une pilule. Tu sais, toi, il faut quand même que tu prennes le temps d'arranger tout ça. Comment vous en êtes venu dans votre couple à décider que vous alliez essayer cette méthode-là de contraception masculine?
Je te dirais que c'est une longue histoire au sens où, disons, depuis que je suis actif sexuellement, depuis mes 18 ans, il y a toujours eu une partie de moi qui était comme, si un jour il y a une pilule, il y a un machin, je le prendrais, j'ai envie de prendre cette responsabilité contraceptive-là. Et comment dire, j'avais le beau rôle, je pouvais me dire, si un jour ça arrive, je vais le faire, mais puisqu'il n'y en a pas, c'est comme, ah, tu vois, c'est pas de ma faute. Donc, disons que ça, c'est un peu mon background. Et disons qu'avec ma copine, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a essayé de prendre la pilule et elle, c'était l'enfer. Donc, les sautes d'humeur, la prise de poids, la diminution de la libido, elle, disons que ça lui faisait pas. On en a essayé deux et ça n'a pas fonctionné. Donc, elle a arrêté. J'étais tout à fait d'accord avec elle. Et c'est simplement d'un coup, un peu entre les branches, on a, comme peut-être vos auditeurs aujourd'hui, on a entendu parler de cette méthode-là. Et disons que face au fait accompli, maintenant qu'elle avait une méthode, je ne pouvais plus me cacher derrière ma vertu de je le ferai un jour.
Ah, mais
Et
j'ai beaucoup
donc, on a
d'admiration pour toi.
on a fait les recherches là-dessus et elle a été super compréhensive à la fois sur le fait qu'elle ne voulait pas me forcer, de la même manière que n'importe quel partenaire ne devrait pas forcer un autre à prendre une méthode. Mais lentement, on a pris cette décision-là à deux. Et je te dirais que le processus, disons, personnellement, si ce n'est d'être assidu au niveau de l'heure de la pause et du retirage de l'anneau, ce que techniquement, n'importe quelle fille qui prend la pilule doit être aussi assidue pour prendre toujours la pilule à la même heure. Moi, c'est facile. Moi, je fais juste mettre le truc et je fais ma journée. Comment dire, moi, j'ai pas de boutons, j'ai pas de prise de poids, j'ai pas de saut d'humeur, j'ai pas tous les trucs qui peuvent être liés. Et, comment dire, on parle même pas sur les risques à long terme au niveau de l'augmentation de la possibilité d'avoir un cancer du sein ou de l'utérus ou de la possibilité d'avoir des caillots sanguins. Donc, moi, pour le moment, moi, ça va bien. Moi, je suis un peu bonhomme dans tout ça.
Mon Dieu, Alexis, si vous pouviez tout être de même. J'aimerais ça.
Non, mais.
Oh, mais je trouve ça super intéressant. Puis ce que j'aime, c'est que tu es cohérent avec les valeurs que tu avais. On a déjà parlé, Yann et moi, de la fameuse hypocrisie humaine. T'sais, on est toutes pour ce qui est de
La vertu.
positif. Oui, on est toutes pour ça naturellement, mais il n'y a pas grand monde qui réellement porte des actions pour en venir, bref, à être cohérent. Puis tu le fais, tu sais.
Les contraceptés, on peut vous rejoindre à quel endroit?
En fait, on a présentement un groupe Facebook qui s'appelle les contraceptifs, collectifs de contraception dite masculine à Montréal. Donc, on n'a pas encore de station satellite Québec. Peut-être qu'un jour, on va étendre notre message à d'autres villes de la province. Mais on a un groupe Facebook. On prévoit présentement organiser un événement, une soirée de discussion afin de partager, si on veut, nos connaissances, nos expériences, de discuter avec les gens qui sont intéressés, mais qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Donc, c'est toujours la partie comique dans ce genre d'événement-là où on se retrouve avec des couples où on dirait que les messieurs, les jeunes hommes sont toujours un peu à reculons pour rentrer. Puis c'est leur copine qui est comme « Non, non, tu viens. Moi, je suis tanné de prendre la pilule. Allez, viens t'asseoir. » Donc, c'est comique à voir, mais je pense que c'est important de garder en tête dans cette discussion-là de l'équité contraceptive, équité contraceptive, désolé, que ça doit toujours se faire à deux et que personne ne devrait être obligé de se contracepter contre son gré.
Alexis Tétrault, ça a été un plaisir de te parler, puis je te souhaite de passer une belle journée.
Eh bien, ça a été un plaisir de discuter avec vous deux. Et avant de vous laisser, s'il y a des auditeurs qui sont intéressés à en savoir plus, il y a eu des ouvrages récents qui ont été publiés, dont un livre qui s'appelle « La contraception masculine » de Jean-François Guérin, publié en 2020, où les gens qui veulent une soirée plus ludique, là, une jolie BD qui a été publiée en 2021 qui s'appelle « Les contraceptés, enquête sur le dernier tabou », qui est techniquement le produit d'une enquête journalistique qui s'est manifestée de manière plus joviale. Donc, j'invite tout le monde à jeter un coup d'œil là-dessus. C'est super intéressant.
Merci beaucoup, Alexis.
Eh bien, bonne journée.
Bye-bye. Alexis Tétrault, qui est un jeune trentenaire qui
Attention, 29.
29, qui fait partie du groupe Les Contraceptés, puis qui utilise un anneau. Donc, qui utilise la méthode thermique. C'est un anneau qui met autour de sa verge et qui remonte les testicules, ouais. Qui fait en sorte que les testicules sont chauffés, puis ça diminue grandement la proportion de spermatozoïdes par millilitre. Puis c'est une technique qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent. Moi, je vais être très honnête
T'es
avec
pas
toi.
Rendu là.
Le jour où ils vont inventer une pilule pour l'homme, ça me dérangera pas de la prendre. Mais l'anneau là, qui sert 15 heures par jour, je ne suis pas encore rendu à cette étape-là. Mais au moins, je paye la moitié des pilules à ma blonde.
Non, mais tu fais, honnêtement, tu fais un pas vers l'avant. Je te salue pour ça parce que ça se fait à deux, dans le fond, coucher. Fait que, tu sais, je trouve qu'au moins de partager le prix, ça peut être une solution. Il y a des auditeurs qui nous redemandent la méthode. Là, Yann, tu viens de le dire, mais méthode thermique. Si jamais vous voulez aller voir ça là, sur les réseaux sociaux ou faire des petites recherches par rapport à ça, il y en a pour qui ça fonctionne super bien. Si c'est inconfortable pour vous autres, bien lâchez ça, mais si ça marche, tant mieux. Mais j'aime l'espèce d'ouverture parce que c'est naturel, puis on ne s'est jamais posé de questions, Yann, sur le fait que la fille, elle prend la pilule, c'est tout, c'est simple, là, arrête de chialer, là, je veux dire.
Ouais.
Mais il y en a pour qui c'est vraiment épouvantable ce que ça amène. Moi, ça fait 15 ans que je la prends. Je peux même pas te dire les changements que ça va faire, mais que j'arrête de la prendre tellement là, mon corps s'est habitué. Mais je trouve ça intéressant de voir qu'il y a autre chose. Et ce fameux gel-là, bon, on est encore en train de l'évaluer. C'est depuis 2018 qu'on travaille là-dessus. Un gel de testostérone que vous metteriez là, sur chacune des épaules. Il ne faut pas que personne vous touche pendant 3-5 heures là, parce que c'est de la testostérone.
Ça va être dur dans mon cas.
Là, si tu mets ça le matin avant d'aller travailler, tu devrais être pas pire, Yann.
Non, même ici, c'est compliqué.
Mais trop, j'en ai à manche longue, là, ça va bien aller. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Si vous voulez réécouter, vous avez manqué un bout, blvd.fm, je vais mettre ça sur nos réseaux.
Ouais, puis tu sais, quand t'es rendu à 40 ans, que ta famille est faite et tout ça, puis que ta blonde veut arrêter la pilule contraceptive,
oui.
Toi, tu t'es rendu à l'étape où tu dois te poser la question à savoir, faut-tu j'aille me faire opérer ou pas?
Ah, mais ça, c'est un no-brainer pour la majorité des familles. Il va te faire couper, j'ai pris la pilule toute ma vie. Là.
Et moi, allô? Ça arrivera pas.
Tu te feras jamais couper?
Ben, je dis, on peut faut dire, jamais dire jamais, mais j'espère que lorsqu'on aura cette décision-là à prendre entre moi et ma conjointe, qu'il y a la fameuse pilule contraceptive pour les gars qui arrivent en
là,
même temps.
Là, tu peux te faire reconnecter, Yann. Là. Ça va bien aller.
Ah non, c'est juste
l'opération.
Que non, c'est ça.
Ah, oh, mon Dieu, que t'es vraiment là.
Le scalpel en dessous de la zone, ça me donne pas.
T'es épouvantable.
Ça sent le cochon brûlé, ça a l'air.
Ben oui, mais quand on se fait épiler au laser, tu penses ça sent quoi? Arrive en 2024, là, arrive sur Terre, là.
Audrey, ça va être beau, là, se faire brûler les testicules. On veut pas ça.
Bon,
on veut pas ça. Hey, on en reparle demain, OK?
Yes.
Ou pas.
Ouais, c'est
salut,
ça.
Audrey. Un gros demain. Merci. Ben. On te souhaite de passer une belle fin de journée. Puis on t'écoute avec Denis et Véro tantôt dans le retour.
Absolument.
On se laisse là-dessus, nous autres, avec Caravane, Maxime sur les ondes de Boulevard. Puis on se retrouve après la pause avec Pascal CV pour Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Ciao.